France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Et pour vous, comment s'est passée la rentrée scolaire? Vous, élèves, parents d'élèves, enseignants, appelez-nous pour raconter au 01 45 24 7000 et via l'appli France Inter. Le standard vous est ouvert jusqu'à 13h45 pour dialoguer avec nos deux invités. Johanna Cornou, bonjour.
Bonjour Bruno Duvic.
Directrice d'une école maternelle au Havre et secrétaire syndicale du SE UNSA de Seine-Maritime. Et bonjour Emmanuel Garraud.
Bonjour.
En studio avec nous, porte-parole de la PEP, la Fédération Française de Parents d'Élèves de l'Enseignement Public. Johanna Cornou, comment se passe la rentrée pour vous? Quelle est la situation de votre établissement? D'ailleurs, d'abord pour nous le présenter, combien de classes et est-ce qu'il y a beaucoup d'absents?
Alors c'est une école élémentaire de 11 classes. J'ai 262 élèves actuellement. C'est extrêmement chaotique. Là, pour vous dire, je ne peux même pas vous donner les chiffres exacts. J'avais 26 cas contact ou cas positifs le dimanche soir, juste avant la rentrée. Et ça n'arrête pas de tomber depuis. J'ai reçu un SMS d'une collègue juste avant de vous rejoindre en ligne. Et donc, je vais devoir annoncer à des parents dans quelques minutes qu'il va falloir qu'ils aillent tester leurs enfants s'ils veulent les remettre à l'école demain.
SMS voilà. D'une collègue qui est elle-même positive, c'est ça?
Non, c'est une enfant qui est positive. D'accord. Dans la classe, voilà. Et depuis hier, c'est ça. Donc ouais. J'approche des 35 situations Covid sur l'école, sur mes 262 élèves.
Et pour les enseignants?
Alors pour l'instant, heureusement, nous y échappons. Alors 100% de vaccinés dans l'équipe enseignante.
Oui.
Mais ça n'a pas empêché quand même les cas positifs jusque-là, mais vraiment à la marge. C'est-à-dire qu'on a été assez épargné jusque-là.
Est-ce qu'on peut rappeler le protocole s'agissant d'une école élémentaire? Alors d'abord, les enfants sont masqués.
Oui.
En toutes circonstances.
Oui.
Qu'est-ce qu'un
cas? Sauf pour manger.
Sauf pour manger, oui. Qu'est-ce qu'un cas positif? Positif, ça c'est facile. Qu'est-ce qu'un cas contact chez vous, école élémentaire?
Alors, sont considérés comme cas contact actuellement tous les enfants de la classe où il y a un élève positif.
Et également les enfants qui déjeunent avec d'autres qui peuvent être positifs. C'est les deux situations.
Oui, alors sachant que sur la ville du Havre, ou en tout cas dans mon école, le personnel de cantine a gardé les précautions qu'on avait déjà au plus fort de la crise l'année dernière, c'est-à-dire que les enfants sont par classe, il y a des tables qui espacent chaque groupe classe, oui. Des tables vides, et chaque enfant a une place attitrée. On a 16 pages de plans de table pour le réfectoire. Chaque enfant mange toujours à la même place. Comme ça, on est certain de savoir qui était à côté de qui. Et sachant que de toute façon, comme ils sont dans la même classe, ils sont automatiquement déclarés cas contact en cas de positivité d'un de leurs camarades.
Bon, voilà un premier coup de sonde d'Emmanuel Garraud du côté des parents d'élèves de la PEP. Quel bilan dresse-t-on de ces 2-3 premiers jours d'école de janvier?
Eh ben, bilan de tension,
oui.
Forte. À l'évidence, donc avec une forte augmentation du nombre de cas positifs, essentiellement chez les élèves, dans une moindre mesure chez les enseignants, du moins pour le moment. Donc pour l'instant, je dirais que le premier état des lieux fait état, en gros, d'un nombre d'enseignants positifs à peine supérieur, légèrement supérieur à ce que l'on constatait au mois de décembre avant les congés. Mais évidemment, dans les jours qui viennent, on peut supposer que la chose va changer sans doute assez fortement.
Oui.
Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est problématique, qui est celui des personnels qui interviennent en école.
Oui.
Donc, ACM, personnel en charge de l'entretien, oui. Ou du gardiennage, etc.
Les ACM, c'est, je dis les dames parce que c'est souvent des dames qui aident, notamment dans les écoles maternelles.
Absolument. Oui. Donc, moi, si je vous fais un retour sur le territoire que je connais le mieux, qui est l'Académie de Paris,
oui.
Aujourd'hui, à hier soir, les chiffres étaient aux alentours de 20 à 25% d'arrêt maladie sur ce type de personnel,
oui.
Lié à la ville de Paris. Donc on est sur 20% pour les personnels du gardiennage et on atteint sur les animateurs pas loin de 30%.
Donc pas mal de cas positifs chez les élèves, moins que redouté pour l'instant chez les enseignants, mais les autres personnels sont très touchés. On va continuer ce dialogue avec nos auditeurs. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Vous enseignez en collège, comment ça se passe pour vous?
C'est un peu compliqué. J'étais plutôt partisan de ne pas retarder la rentrée. Oui. Mais au vu des chiffres actuels, je commence à me dire qu'il aurait mieux fallu. Pour vous donner une idée, j'ai 5-6 élèves absents par classe. J'ai une classe ce matin, on était à une dizaine même. Ça commence à poser des problèmes, ne serait-ce que pour faire cours, tout simplement, parce que qu'est-ce qu'on fait des absents, ils ne peuvent pas vraiment continuer à faire cours et autres. Et il y a même, en parlant avec ses collègues d'autres établissements qui sont même plus loin, l'établissement où je suis, c'est un peu généralisé et il y a même ces centres de direction qui commencent à dire de freiner dans les progressions et tes apprentissages parce que mais on ne peut pas temporiser avec un absentéisme si important, en fait.
Alors, on vous entend pas très bien, donc je vais mettre fin assez vite à la conversation. Juste une question. Ces élèves 5 à 6, voire plus, dites-nous, qui sont absents, comment est-ce que vous allez rattraper avec eux? Comment est-ce que vous allez vous organiser pour qu'ils puissent rattraper les cours? Parce qu'effectivement, ça fait beaucoup.
Bah, très franchement, pour l'instant, je sais pas trop.
Ouais.
Je continue à faire cours normalement, si on peut dire. Moi après, comme beaucoup de collègues, on dépose les cours sur le logiciel de Pronote ou autre, donc ils peuvent suivre à distance, mais c'est comme si on était en confinement sans vraiment l'être, parce qu'on ne peut pas les suivre comme on peut les suivre en classe, en fait, tout simplement.
Merci Sébastien pour ce témoignage. Johanna Cornou, que dites-vous? Sébastien nous dit, moi j'étais pour l'école ouverte et on sait tous que pour les élèves avant tout, pour les parents, pour les enseignants, c'est compliqué l'école fermée. Est-ce que vous dites on arrive à la situation limite de cette volonté d'ouvrir l'école à tout prix?
Eh bien, c'est-à-dire que ça dépend des objectifs.
Ouais.
Si l'objectif c'est que les enfants soient gardés, effectivement, de toute façon, il faut garder les écoles ouvertes. Mais clairement, le service public d'éducation est dégradé parce que, je vais vous donner un exemple très concret. Hier, j'avais des élèves qui devaient revenir à l'école absolument testés, puisqu'il y avait eu un cas positif dans la classe lundi. À l'entrée, ma collègue avait deux élèves en présence, des élèves qui étaient absents la veille. Deux élèves sont arrivés à la récréation à 10h. Deux élèves sont arrivés entre 11h35 et 11h45 pour manger. Et quatre élèves sont revenus pour l'après-midi. Les 14 autres élèves de sa classe étaient à la maison, mais pas en distanciel, parce que ils étaient soit déposés très vite chez les grands-parents, dans la famille, pour être gardés, soit ils étaient en train de courir après une pharmacie ou un laboratoire pour être testés. Donc on n'est pas... Là, actuellement, si vous voulez, la notion de continuité pédagogique, matériellement, elle n'est même pas possible. Parce que les enfants ne sont pas tous au même endroit, au même moment. C'est pas comme quand une classe est fermée, où là, on sait que tout le monde est à distance, plus ou moins disponible, mais en théorie, quand même, plus synchronisé, quoi. Et là, c'est vrai que ces retours perlés, en ignorant complètement dans quelle situation sont les enfants qui ne sont pas là, c'est vraiment très difficile à gérer et on ne peut pas continuer les programmes comme si de rien n'était. Mais en même temps, c'est difficile de se dire qu'on arrête puisqu'on n'est pas censé être fermé.
Emmanuel Garraud, c'est très clair. Que dites-vous de cette école perlée? Je reprends l'expression qu'utilise Johanna Cornou. C'est mieux que rien ou il vaudrait mieux être à distance tout le monde?
Bah écoutez, dans l'état actuel des choses, c'est mieux que rien, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens techniques aujourd'hui, véritablement, de mener l'école à distance, dont on parle souvent et depuis longtemps, mais on constate depuis 1 an et demi, 2 ans que la crise est arrivée, qu'aujourd'hui, techniquement parlant, ça ne fonctionne pas. C'est un fait. Alors, il y a peut-être un manque de matériel, d'organisation, peut-être aussi de bonne volonté de différents acteurs, en termes aussi bien d'équipement que d'enseignement à distance. Mais il en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ce n'est pas opérationnel. Et c'est sans doute un pis-aller, je doute fort, malheureusement, en particulier qu'un décalage d'une semaine de la rentrée aurait changé quoi que ce soit. Je doute fort qu'en fin de première semaine de janvier, le virus ait eu la politesse de s'éclipser. Je pense qu'en deuxième semaine, nous aurions tout simplement vécu ce que nous vivons cette semaine, malheureusement.
Témoignage de Claire au standard à présent. Vous enseignez en CE1, Claire. Bonjour.
Oui, bonjour. Je tenais à témoigner, pas forcément en direct, mais bon, j'ai cédé parce que je suis un peu sous
la pression. A dû être amicale. Allez-y.
Oui, voilà. Donc moi, je voulais juste dire que l'école allait mal, enfin, de ce que je vois, de l'intérieur. Je ne suis pas sûre que la population s'en rende compte parce qu'on ne communique pas. On tient cette école à bout de bras et c'est vraiment nous qui la tenons, je peux vous assurer. Et je disais à hors antenne que on voit que l'hôpital va mal parce qu'à l'hôpital, on meurt, on souffre et qu'on y passe tous. Mais à l'école, on ne voit pas parce qu'on ne communique pas. Mais je pense qu'on est peut-être pas loin de la situation de l'hôpital. Voilà, avec du manque de personnel, des enfants qui souffrent, des collègues qui sont face au portail et face à la colère des parents. Et on est un petit peu impuissant face à ça. Et on vit au jour le jour et on fait des choses qu'on ne devrait pas faire parce que notre métier, c'est bien d'enseigner. Et on essaye de tenir cette école parce que je crois qu'on a encore l'amour du service public. Mais c'est compliqué. Et je pensais honnêtement que ça allait craquer lundi et ça ne craque toujours pas. Voilà. Donc, je crois que si on travaillait en entreprise, on serait super performant parce qu'on a une capacité de résilience qui est énorme. Voilà.
Merci. Mais, merci Claire pour votre témoignage. Il y a Léon, l'école va très mal aussi, burn-out total. Alors, au-delà de ça, Johanna Cornou, c'est aussi au fond une illustration des moyens accordés à l'école, les fameux capteurs de CO2. Comment ça se passe dans votre école du Havre? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez en quantité suffisante? Quel dialogue avec la mairie? Comment ça se passe?
Comment vous dire? J'ai zéro capteur de CO2 dans mon école de 11 classes. Je n'ai même pas pour l'instant fait la démarche de demander. Honnêtement, hein, je ne vais pas le cacher parce que je ne vais pas faire croire que je l'ai demandé. Parce que de toute façon, on ne sait même pas à qui on doit les réclamer. On ne sait pas.
Bah, théoriquement, aux villes, me semble-t-il, pour une école élémentaire.
En principe, voilà, ce sont les villes qui équipent, mais si vous voulez, pour les capteurs de CO2, il y a des dispositifs particuliers qui ont été mis en place avec les préfectures et un budget de l'État pour soutenir les collectivités. Et je pense qu'il y a une telle confusion dans toutes ces choses-là, dans tous les circuits, qu'on ne sait même pas, en fait. On ne sait même pas. Nous, vous savez, dans les directeurs d'école, on a des catalogues tout faits, on a des listes, on fait nos fournitures sur les études de marché de la ville, etc. Donc, c'est vraiment très restreint nos possibilités d'action. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles des capteurs. J'espère qu'on va en avoir bientôt. Et pour tout vous dire, quand on a passé 72 heures dans une semaine, comme ça m'est arrivé juste avant les vacances de Noël, pour gérer les questions Covid, on n'a pas du tout le temps de tirer les sonnettes pour savoir à qui on doit s'adresser pour demander ça, quoi.
Et alors, ce que disent les médecins, c'est les capteurs, c'est une chose et c'est très bien. On peut aussi ouvrir la fenêtre. On est le 5 janvier. Est-ce que vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre sans demander aux élèves de mettre 3 manteaux et 4 bonnets?
Alors,
et est-ce que la configuration de l'école le permet? Il y a ça
voilà.
aussi.
Ouais. C'est surtout ça. En fait, on est assez chanceux parce que les fenêtres s'ouvrent dans notre école. Ouais. Cependant, donc j'ai deux bâtiments. Moi, j'ai un bâtiment principal dans lequel les classes sont assez grandes. Et j'ai un bâtiment annexe dans lequel les classes font, je crois, 45 mètres carrés. Donc avec une classe la plus chargée cette année, c'est pareil, c'est pas très chargé, c'est 26. Mais quand on prend les petits outils de calcul, on devrait ouvrir et ventiler la pièce complètement toutes les 11 minutes dans ce bâtiment-là. Donc en fait, concrètement, c'est ouvert tout le temps, tout le temps.
Emmanuel Garraud, cette question des capteurs, qu'est-ce qui bloque? C'est trop cher? C'est les municipalités? C'est le lien entre municipalité et ministère de l'Éducation? Qu'est-ce qui bloque?
Il est difficile d'en avoir une vision totalement claire dans la mesure où la situation est très hétérogène en fonction des villes. Ouais. Parce que, comme vous l'avez rappelé, c'est principalement aux villes qu'incombe un tel équipement. Donc, on constate aujourd'hui qu'il y a des villes qui ont équipé toutes les classes de leurs établissements. Et puis d'autres pas du tout. Et puis d'autres de manière extrêmement partielle. Si je devais prendre un exemple précis qui ne concerne pas une école mais un collège, puisque c'est un établissement que je connais plus particulièrement. Ils ont en tout et pour tout 27 classes et 2 capteurs. Dont un qui est réservé à la salle des professeurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté de la ville en question de procéder à des équipements futurs. Mais effectivement, la situation est très hétérogène et donc ça veut dire que l'ensemble des acteurs, et notamment les directeurs d'école, doivent vraiment faire le siège de leur mairie respective pour demander l'équipement nécessaire.
Merci à tous les deux, Emmanuel Garraud, Johanna Cornou, d'avoir participé à cette émission et je retiens notamment cette expression de rentrée perlée qui définit sans doute ce qui se passe 3 jours après et ça ne fait que commencer, on continuera de suivre ça.